36, rue des Morillons. 15e arrondissement, juste derrière le parc Georges Brassens. Le taxi me dépose devant les locaux des objets trouvés. Un bel immeuble des années 1920 en briques roses et pierres blanches. Même si le service dépend de la préfecture de police de Paris, c'est une structure administrative dans laquelle ne travaille aucun flic, et je n'y ai jamais mis les pieds. Je montre ma carte à l'accueil et demande à être reçu par le responsable. Pendant que je patiente, je jette un coup d'œil autour de moi. Derrière les guichets, une dizaine d'employés reçoivent indifféremment ceux venus déposer un objet qu'ils ont trouvé sur la voie publique et ceux venus récupérer leurs biens ou signaler leurs pertes.
Stéphane Dalmasso, enchanté.
Je lève la tête. Moustache broussailleuse, bajoux pendante, petites lunettes rondes en plastique coloré, le patron de la rue des Morillons a une tête sympathique et un fort accent de Marseille.
Alice Schaeffer, de la criminelle.
Enchanté.
C'est pour bientôt ?
Demande-t-il en regardant mon ventre.
Un mois et demi, peut-être avant.
Un enfant, ça vous grandit un homme !
Lance-t-il en m'invitant à le suivre dans son bureau. Je débarque dans une pièce spacieuse, aménagée comme un petit musée, où sont exposés les objets les plus insolites récupérés par le service. Une légion d'honneur, une prothèse de jambe, un crâne humain, un éclat de métal provenant du World Trade Center, une urne contenant des cendres de chat, un sabre de yakuza, et même une robe de mariée.
C'est un chauffeur de taxi qui nous l'a rapporté il y a quelques années. Il avait pris en charge un couple qui venait de se passer la bague au doigt. Les mariés se sont disputés et ont rompu pendant le trajet,
explique Stéphane Dalmasso.
Vous êtes à la tête d'une véritable caverne d'Ali Baba.
La plupart du temps, on nous rapporte surtout des portefeuilles, des lunettes, des clés, des téléphones et des parapluies.
Impressionnant,
dis-je en jetant un coup d'œil à ma montre.
J'ai des anecdotes à l'appel, mais j'imagine que vous êtes pressé,
devine-t-il en m'invitant à m'asseoir.
Alors, qu'est-ce qui me vaut la visite de la crime ?
Je travaille sur une affaire de meurtre. Je voudrais savoir si une certaine Virginie André s'est rendue chez vous ces derniers jours.
Pour nous demander quoi ?
Pour savoir si vous aviez retrouvé l'ours en peluche de son fils perdu au parc Monceau.
Assis sur un fauteuil à roulettes, Dalmasso se rapproche de son bureau et appuie sur une touche de clavier pour activer son ordinateur.
Virginie André, vous dites ?
Demande-t-il en frisant sa moustache. J'approuve de la tête. Il lance la requête dans son logiciel.
Non, désolé, nous n'avons reçu aucune demande à ce nom au cours du dernier mois.
Elle a peut-être fait une déclaration de perte en ligne ou par téléphone.
Je l'aurais trouvé. Toutes les demandes sont obligatoirement consignées dans nos bases de données. Nos employés remplissent les formulaires directement sur informatique.
Bizarre. Son mari m'a affirmé qu'elle avait déposé un dossier chez vous. Pouvez-vous vérifier 3 autres personnes, s'il vous plaît ?
J'écris les noms sur le filofax à spirale posé sur le bureau et retourne l'agenda. Dalmasso déchiffre mon écriture et entre successivement les 3 requêtes. Clara Mathurin, Nathalie Roussel, Maude Morel.
Non, négatif pour les 3.
Je ressens une immense déception. Il me faut plusieurs secondes pour admettre mon erreur.
Bon, tant pis. Merci pour votre aide.
Alors que je me lève pour partir, je ressens des picotements et porte la main à mon abdomen. Le bébé bouge toujours énormément. Il pousse très fort dans mon ventre, comme s'il voulait l'étirer. À moins que ce ne soit des contractions.
Ça va ?
S'inquiète Dalmasso.
Vous voulez que je vous appelle un taxi ?
Je veux bien, dis-je en me rasseyant.
Claudette !
Lance-t-il à sa secrétaire.
Trouvez-moi une voiture pour Mademoiselle Schaeffer.
La mine sévère et contrariée, une petite femme à l'horrible teinture rousse débarque dans le bureau 2 minutes plus tard, une tasse fumante à la main.
Le taxi arrive d'un moment à l'autre, assure-t-elle. Vous voulez un peu de thé sucré ?
J'accepte le breuvage et reprends progressivement mes esprits. Sans que je sache pourquoi, la petite femme me regarde toujours d'un air mauvais. Venue de nulle part, une question traverse subitement mon esprit.
Monsieur Dalmasso, j'ai oublié de vous demander. Un de vos employés posséderait-il un scooter à trois roues ?
Pas que je sache. C'est plutôt un truc de mec, non ? Et comme vous avez pu le constater, la plupart de nos employés sont des femmes.
Eric vient avec un de ses engins,
nous interrompt la secrétaire. Je regarde Dalmasso dans les yeux. Qui est Eric ?
Eric Vaughan est un intérimaire. Il travaille chez nous pendant les vacances, les périodes de pointe ou lorsque l'arrêt maladie d'un de nos employés se prolonge.
Il est présent aujourd'hui ?
Non, mais nous le réembaucherons sans doute pour Noël.
À travers la paroi de verre cannelée du bureau, je devine le taxi qui m'attend sous la pluie. Vous avez son adresse ?
On va vous trouver ça,
assure-t-il en tendant un post-it vierge à sa secrétaire. Ce nouvel élément a ravivé les braises en moi. Je ne veux pas perdre de temps. Je griffonne à la hâte mon numéro de téléphone et mon mail sur l'agenda de Dalmasso. Recherchez les périodes pendant lesquelles Vaughan a travaillé chez vous ces deux dernières années et envoyez-les-moi sur mon portable ou ma messagerie, s'il vous plaît. J'attrape le papillon adhésif que me tend Claudette, claque la porte derrière moi et m'engouffre dans la voiture. L'habitacle du taxi empeste la transpiration. La radio est à fond et le compteur affiche déjà 10 euros. Je donne l'adresse au chauffeur, un immeuble de la rue Parent de Rosan, dans le 16e, et lui demande fermement de baisser le volume de son poste. Il le prend de haut, jusqu'à ce que je lui montre ma carte de flic. Je suis fébrile, agité de tremblements, submergé par des bouffées de chaleur. Il faut que je me calme. Je déroule dans mon esprit un scénario bâti sur des hypothèses improbables, mais auxquelles j'ai envie de croire. Eric Vaughan, un employé du service des objets trouvés, se sert de son poste pour repérer ses prochaines victimes. Clara Mathurin, Nathalie Roussel, Maud Morel et Virginie André ont toutes les quatre croisé sa route, mais il n'a jamais entré leur fiche dans le logiciel du service. C'est pour cela que leur nom n'y figure pas. Il est parvenu à les mettre en confiance, à les faire parler, collectant le maximum de renseignements. Il connaît leur adresse, il sait qu'elles vivent seules. Après cette première rencontre, il laisse passer quelques jours, puis se rend chez sa proie en prétendant lui rapporter son objet. Pour leur malheur, les quatre femmes ont trouvé normal de le laisser entrer. On ne se méfie jamais du porteur d'une bonne nouvelle. On est soulagé d'avoir retrouvé son foulard préféré, son téléphone portable ou l'ours en peluche de son fils. Alors on ouvre sa porte, même s'il est déjà 21h passées. Non, je divague. Combien de chances que ça tienne la route ? 1 sur 1000 ? Quoique... Le trajet est rapide. Après avoir remonté le boulevard Victor Hugo, la voiture passe devant l'hôpital Georges Pompidou et traverse la Seine, non loin de la porte de Saint-Cloud. Ne la joue pas en solitaire. Je sais comme personne que la résolution d'une enquête criminelle n'est pas un travail individuel. C'est une procédure cadrée et très codifiée, fruit d'un long travail d'équipe. C'est pour ça que j'ai très envie d'appeler Seymour et de lui faire part de mes découvertes. J'hésite. Puis je décide d'attendre de recevoir les dates pendant lesquelles Eric Vaughan a travaillé aux objets trouvés. Mon téléphone vibre. Je consulte ma messagerie. Dalmasso m'a envoyé l'emploi du temps de Vaughan sous Excel. Je clique sur mon écran, mais le fichier refuse de s'ouvrir. Format incompatible. Et merde !
Vous êtes arrivé ?
Aimable comme une porte de prison, le chauffeur me débarque au milieu d'une petite artère à sens unique, coincée entre la rue Boileau et l'avenue Mozart. La pluie s'est encore intensifiée. L'eau ruisselle dans mon cou. Je sens le poids du bébé très bas et très dense, si bien que j'ai de plus en plus de mal à marcher. Fais demi-tour. Au milieu des maisons de ville et des petits immeubles, je repère un bâtiment grisâtre au numéro que m'a indiqué la secrétaire. Une construction typique des années 1970, une barre de béton sinistre tout en longueur qui défigure la rue. Je repère le nom Vaughan sur la sonnette et appuie sur le bouton. Pas de réponse. Dans la rue, sur l'emplacement réservé aux deux roues, il y a une moto, un vieux Chappie Yamaha et un scooter à trois roues. J'insiste encore sur la sonnette et appuie sur tous les boutons jusqu'à ce qu'un habitant de l'immeuble m'ouvre la porte. Je note l'étage où habite Vaughan puis monte par les escaliers sans me presser. Je recommence à sentir comme des coups de pied dans mon ventre. Des coups de pied d'alerte. Je sais que je suis en train de faire une connerie, mais quelque chose me pousse à continuer, à avancer. Mon enquête. Je n'allume pas de lumière. Je monte les marches une à une dans le noir. 6e étage. La porte de Vaune est entrouverte. Je sors mon calibre de mon sac, tout en me félicitant mentalement d'avoir eu l'intuition de le prendre avec moi. Je serre la crosse des deux mains. Je sens la sueur mélangée à la pluie qui coule dans mon dos jusqu'à l'échine. Je crie.
Éric Vaune ! Police ! Je vais entrer !
Je pousse la porte, les deux mains toujours bien serrées autour de la crosse. J'avance dans le corridor. J'appuie sur l'interrupteur, mais l'électricité a été coupée. Dehors, la pluie tambourine sur le toit. L'appartement est quasi vide. Pas de lumière. Presque aucun meuble. Quelques cartons posés à même le sol dans un salon. Visiblement, l'oiseau s'est envolé. Mon angoisse descend d'un cran. Ma main droite quitte mon calibre pour attraper mon téléphone. Alors que je compose le numéro de Seymour, je sens une présence derrière moi. Je lâche mon téléphone et fais volte-face pour apercevoir un homme, le visage dissimulé par un casque de moto. J'ouvre la bouche pour hurler, mais avant que le moindre cri ne sorte, je sens la lame d'un couteau s'enfoncer dans ma chair. La lame qui est en train de tuer mon fils. Vaune frappe mon ventre, encore et encore. Mes jambes se dérobent et je m'écroule sur le sol. Confusément, je sens qu'il est en train de retirer mes bas. Puis je me sens partir, emporté dans un fleuve de haine et de sang. Ma dernière pensée est pour mon père. Plus précisément pour cette phrase qu'il s'est fait tatouer sur l'avant-bras. La plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas.